Moi, je vais juste vous lire le psaume 8 dans la version français courant. La gloire de Dieu et la grandeur de l'homme. Ô Seigneur notre Maître, que ta gloire est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel. Mais c'est la voix des petits-enfants, des tout-petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur, notre Maître, que ta gloire est grande sur toute la terre.
Psalmiste s'étonne. Comment est-ce possible, comment se fait-il que le Créateur de l'univers s'intéresse à nous, êtres humains qui sommes quelque part si insignifiants devant la grandeur de l'univers? C'est un vrai paradoxe qui est au cœur de notre foi chrétienne. Et je dirais même qu'aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques actuelles, le paradoxe est encore bien plus fort, bien plus extraordinaire, bien plus incroyable que jamais. Et j'avais envie de méditer un petit peu sur ce thème de la création au seuil de cette nouvelle année. Nouvelle année qui a ses promesses, puis qui a aussi ses inquiétudes. Un début d'année où beaucoup de gens s'interrogent, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? J'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, il y avait une émission de C'est dans l'air, où ils avaient invité un scientifique et puis deux dames astrologues qui défendaient leur point de vue. Alors c'était assez intéressant de voir tout ce questionnement qu'on a sur notre avenir, sur notre destinée, sur le sens de notre existence sur cette terre. Avec cette question que les gens ont, est-ce que notre avenir, est-ce qu'il est inscrit quelque part? Alors j'aimerais qu'on médite certains éléments du thème de la création dans la Bible, qui je crois donne beaucoup d'instructions. Il n'y a pas que dans la Genèse qu'on parle de création. Tout à l'heure, on va essayer de redécouvrir ensemble quelques aspects du premier chapitre de la Genèse. Ce thème, il est présent dans le psaume 8 qu'on vient de lire, il est présent dans plein d'autres textes des prophètes, il est présent dans le début de l'évangile de Jean qu'on a relu. C'était quand? C'était le dimanche après Noël, je crois qu'on a relu le début de l'évangile de Jean, qui raconte l'histoire de Noël en parlant de la création de Dieu par sa parole, et qui montre que Dieu est venu en chair parmi nous. Et puis il y a tout le livre de Job. Alors la Bible s'ouvre par un récit de la création. En fait, pas un, il y en a deux. Vous le savez sans doute, et qui sont peut-être pas mis dans l'ordre où ils ont été écrits. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour maintenant, mais ça peut être le signe un peu d'une révélation progressive de Dieu, où le peuple d'Israël, il a d'abord fait l'expérience du Dieu qui le sauvait, à travers l'expérience de l'Exode, et puis il comprend progressivement que ce Dieu qu'il délivre, c'est pas seulement son Dieu particulier, c'est vraiment le Dieu de tous les hommes. C'est le Dieu de tout l'univers. Et il est probable que c'est qu'il fait cette découverte de manière approfondie au moment où il est en exil, où il semble que tout s'est écroulé. Et il découvre quand même cette présence du Dieu, qui est non seulement le Dieu qui les a accompagnés tout au long de la route, mais qui est le Dieu créateur. C'est des récits qui parlent pas seulement de la création au début du monde, il y a X milliers, millions ou milliards d'années, mais qui nous rejoignent dans notre vie, qui nous rejoignent dans le sens de notre existence, qui racontent quelle est notre vocation. Je crois que c'est ça le sens principal de ces textes. de notre vocation, de notre lien avec les autres, de notre lien avec Dieu, de notre lien avec la nature qui nous entoure. D'ailleurs, peut-être juste une petite chose tout simple qui nous montre que ce n'est pas des textes qui veulent nous raconter chronologiquement comment les choses sont faites. Comme vous vous souvenez qu'il y a deux récits de création, juste un petit test comme ça. Est-ce que vous vous souvenez dans le deuxième récit de création où il est question du jardin d'Éden? Dans quel ordre est-ce que Dieu a créé entre l'homme, les animaux, les plantes et la femme? Dans quel ordre ils sont créés dans le deuxième récit? Est-ce que quelqu'un peut me dire? C'est quoi qui est en premier? Dans le deuxième récit. C'est quoi qui est en premier? Vous êtes sûr que c'est le jardin? Alors, dans le deuxième récit, ce n'est pas le jardin qui vient en premier. Il est dit qu'au début, il n'y avait aucune herbe, etc. Puis Dieu façonne un être humain. Et puis ensuite, il crée un jardin. OK? Voilà. Donc, c'est l'homme. Puis ensuite, il y a le jardin, donc il y a les végétaux. Et puis ensuite, les animaux. Et puis en dernier, il y a la femme. Voilà. OK, ça c'est comme... C'est la manière dont on raconte l'histoire dans le deuxième récit. Et dans le premier, ça commence par quoi entre ces quatre choses? Oui. Non mais entre plantes, animaux, hommes et femmes. Les plantes, d'accord, les végétaux d'abord. Oui. Les animaux viennent après. Et puis l'homme et la femme viennent dans quel ordre? Ils viennent en dernier. Et puis, ils sont ensemble, voilà. Ils viennent en dernier, puis ensemble. Donc, c'est pas du tout le même ordre, ok? C'est juste quand même une petite chose tout simple qui nous montre que ce n'est pas l'intention de ces textes de nous dire dans quel ordre les choses ont été créées, mais il y a un autre message derrière. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de redécouvrir dans le premier récit, et je vais l'illustrer un petit peu, comment la création est faite. Alors, je ne l'ai pas fait lire, bon, d'une part parce que c'est peut-être un petit peu long, mais ce n'est pas si long que ça de lire le premier chapitre, mais parce que je pense que la plupart l'ont déjà lu, l'ont un peu en tête, mais quelquefois, c'est bien de faire émerger les souvenirs de ce texte, qui est un texte absolument magnifique. Hein. C'est ce texte de la création en sept jours. C'est un texte qui utilise des images de l'époque sur comment est structuré le ciel et la terre, mais qui en même temps est un message extrêmement actuel et même, je dirais, extrêmement moderne, par rapport à beaucoup de conceptions de nos contemporains. Et pour reparler de cette histoire des missions 7 dans l'air avec les astrologues, je dirais que le texte biblique est beaucoup plus moderne et beaucoup plus actuel que les conceptions de ces chères dames astrologues. Voilà. Alors, au début, ben, il n'y a rien. Bon. Il y a le tohu-bohu en hébreu, tout était informe et vide. C'est une espèce d'image du néant, hein. Mais c'est aussi c'est une image du non-sens, une image du chaos. Ce néant informe et vide, quand c'est informe, il n'y a pas de forme. Si vous voulez, on ne peut rien reconnaître, on ne peut rien distinguer, on ne peut pas trouver de signification. Et puis je pense que ça rejoint aussi des choses qu'on vit, parce qu'on peut avoir des fois l'impression dans notre vie que tout d'un coup le sens des choses disparaît. Que ça je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive parfois que tout d'un coup on a l'impression que plus le sens, la saveur de la vie, des fois ça disparaît un petit peu, puis c'est assez inquiétant dans notre vie, parce qu'on a l'impression que ça s'efface. La signification des choses s'efface. En tout cas, moi, ça m'arrive parfois. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu effrayant quand on se sent dans cet état-là. Et je crois que ça fait allusion justement à ce Dieu qui nous sauve de ce chaos qui peut nous envahir. Et alors Dieu arrive et crée par sa parole, ce qui signifie que c'est un Dieu qui tout de suite crée avec une relation. Parce que la parole, c'est quelque chose qui met en relation. Bien sûr, c'est une parole peut-être d'autorité qui fait exister, mais c'est une parole qui met en relation et c'est déjà quelque chose qui nous s'interroge sur notre vocation et qui crée une interdépendance avec le Créateur, qui crée aussi un espace de liberté. Alors, qu'est-ce qu'il crée d'abord ? D'abord, Dieu sépare le... Voilà. Jour 1, Dieu sépare la lumière des ténèbres et crée la lumière. Cette lumière qui permet de distinguer, qui permet de voir, qui permet de découvrir des êtres. Alors, on va passer un petit peu rapidement, mais ça nous permettra de voir un petit peu comment il est structuré de manière magnifique, ce texte. Et au deuxième jour, où est-ce que vous vous souvenez ? Ah, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alors, bien sûr, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, ça fait allusion à des images de l'époque, mais... Voilà. Les eaux d'en haut, il y a une voûte, puis il y a les eaux d'en haut. Donc, on imaginait à l'époque qu'il y avait une espèce de réserve d'eau dont la pluie venait. Et puis, les eaux d'en bas, c'est la mer. Alors, voilà, dans le deuxième jour, de nouveau, une nouvelle séparation qui crée une forme, qui crée une structure, pour employer un langage plus moderne. Voilà. Et puis, troisième jour. Oui, il sépare quoi ?
Les eaux d'en bas, qui font la terre et la mer.
Il sépare les eaux, la mer, si on veut, du sec, de la terre ferme. Et puis tout de suite, la terre ferme a produit de la végétation. Voilà, alors, on va essayer de... Voilà, une petite image de ça, voilà. Bon, mes dessins, ils ne sont pas très réalistes, mais voilà, c'est juste pour... Voilà. Alors voilà les trois jours, les trois premiers jours de structuration, hein, par des séparations, et Dieu crée une structure, là, voilà. Mais il n'y a pas encore grand-chose, ok? Alors, qu'est-ce qui arrive au quatrième jour?
La lune, les étoiles, le soleil.
Voilà. Qui ne sont, dans le texte, alors il faudrait prendre plus de temps pour ça, mais qui ne sont pas indiqués par leur nom. Dieu crée... un grand luminaire, enfin suivant les traductions, un grand luminaire et un petit, et des petits, voilà. Des luminaires qui habitent la nuit, et le soleil qui habite le jour. Et voilà que ce jour et cette nuit qui sont créés au premier jour sont habités au quatrième jour. Alors, on comprend déjà un petit peu pourquoi le soleil et la lune n'arrivent qu'au quatrième jour, et s'ils n'arrivent pas par leur nom, c'est aussi parce que ce texte prend un recul critique par rapport aux conceptions de l'époque, où le soleil était adoré chez les Égyptiens, où l'on cherchait, comme les astrologues d'aujourd'hui, le sens de notre vie dans les étoiles, dans le ciel. Et là, le ciel est une simple création qui nous permet de nous repérer dans les jours, mais c'est... Au niveau de la créature, il y a un refus de cette divinisation du ciel et des étoiles. Alors, on pourrait élaborer là-dessus, mais voilà. C'est un petit peu là le sens de ce soleil et de cette lune qui arrive au quatrième jour. Puis au cinquième jour, alors, qu'est-ce qui va venir ? Voilà, les oiseaux et les poissons. Il y a des poissons et puis il y a même des monstres marins. Mais bon, j'ai pas eu le temps de vous mettre un crocodile, mais voilà. Et au sixième jour, les animaux et les humains, hommes et femmes. Voilà, le homme et femme créés en image de Dieu. C'est un texte très fort et je vous dirais que c'est... Moi, j'ai perçu presque en creux à quel point ce texte nous rejoint quand à cause des expériences de vie difficiles que je traversais, j'arrivais plus à lire ce texte qui nous raconte que, je pense que ça a duré 2-3 ans où j'arrivais plus à lire ce texte qui me touchait très fort dans ma vie personnelle. Parce que hommes et femmes, on est créés en image de Dieu. Et voilà. Et le fait que l'homme et la femme aussi soient présentés ensemble dans ce premier texte de la Bible, sans hiérarchie, je pense a une signification très forte sur ce qu'on est en tant qu'hommes et femmes. Et là aussi, si vous voulez, il est très moderne par rapport à beaucoup de cultures qui ont eu tendance à donner à la femme un rôle secondaire. Alors, voilà cette image de ce texte. Et après, naturellement, il y a le septième jour où Dieu se repose. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? C'est, déjà, il y a une conviction d'un créateur. Alors, cette conviction d'un créateur, elle est partagée, en fait, par beaucoup de gens. Je ne sais pas si on peut dire la majorité des gens, mais j'ai un peu l'impression que la majorité des gens ont quand même l'impression, même dans notre société qui est très déchristianisée, si on peut dire, qu'il y a quelque chose, ça ne s'est pas fait tout seul, ce monde. Dans le monde scientifique, d'ailleurs, il y a de toutes sortes d'opinions. Hein. Il y a des scientifiques athées, il y a des scientifiques athées militants, mais il y a beaucoup de scientifiques qui sont très ouverts à l'idée qu'il y a un sens au-delà de, si vous voulez, la matière qu'ils essayent d'expliquer. Et j'ai été assez frappé par un d'entre eux qui est un astrophysicien vietnamien qui s'appelle Trinh Xuan Thuan, parce que il est bouddhiste. De tradition, hein. Sa tradition religieuse, c'est le bouddhisme. Dans le bouddhisme, il n'y a pas l'idée d'un créateur. Il n'y a même pas l'idée d'un dieu, d'ailleurs, dans le bouddhisme philosophique. Même si, quelque part, le Bouddha est divinisé dans la religion populaire, philosophiquement, il n'y a pas de dieu. Et il n'y a pas de question de début de l'univers. Il y a un monde qui est plus ou moins infini, qui est plus ou moins cyclique. Donc, il n'y a pas l'idée de création. Et c'est intéressant que cet astrophysicien, il trouve des raisons de croire qu'il y a un créateur quand même dans ses recherches en astrophysique. Et il dit explicitement qu'effectivement, dans sa tradition bouddhique, il n'y a pas de créateur, mais qu'il y voit quelque chose. Alors, je ne vais pas développer les arguments qu'il utilise. C'est en anglais, ça s'appelle l'argument du fine-tuning, mais alors, il ne faut pas, à mon avis, chercher des preuves d'existence de Dieu à travers ce genre d'arguments. Mais je trouve intéressant que les gens soient interrogés par leur propre recherche sur un au-delà de l'univers et une signification spirituelle derrière. Et il utilise le terme spirituel, d'ailleurs, dans une interview que j'ai, qui est assez récent. Mais quelque part, il y a une limite. Parce que ce Dieu qu'on retrouve à travers la recherche scientifique ou à travers ce questionnement, ça reste un Dieu qui est peut-être un peu vague, qui est un peu philosophique. Et un Dieu qui, il n'y a pas de raison qu'il puisse s'intéresser à nous, comme le disait le psaume. Ce Dieu qui nous rejoint personnellement, c'est dans la Bible qu'on en a la révélation. Et pour vous rendre le paradoxe encore un petit peu plus fort, je me permets de faire juste une toute petite digression. J'ai oublié un de mes papiers, mais ça ne fait rien, je me souviens. Est-ce que, Olivier, tu vois cette tête d'épingle, là, au fond? Ah, tu ne la vois pas? Bon, vous la voyez là-devant? Voilà, bon, elle fait 2 millimètres. Alors, imaginez que ça soit la Terre. OK? Alors, la Lune, elle serait à quelques centimètres ici, encore plus petite. Le Soleil, il serait justement vers Olivier. Hein, ça serait... Voilà, ça serait le Soleil. Et puis... J'ai... Oui, j'avais noté les chiffres sur un papier que je n'ai pas pris. Je n'en souviens pas tous par cœur. Mais ensuite, si vous allez à la planète Jupiter, alors là, vous arrivez, je crois, à peu près dans la chapelle catholique. Puis si vous allez aux confins du système solaire, il faut aller pratiquement au centre commercial. Okay. Mais ça, c'est juste le système solaire. Le système solaire, c'est rien du tout. Alors, la première étoile, elle est déjà à des centaines de kilomètres, puis celle que vous repérez habituellement bien, c'est l'étoile polaire. Enfin, moi, c'est à peu près la seule que je sais identifier, mais malheureusement, mais je crois que tout le monde sait identifier l'étoile polaire. Ben, vous savez, elle serait... Ben, elle serait à peu près entre chez Fanny et puis là où est partie Lydie. Donc, entre, oui, voilà, l'étoile polaire, elle serait si loin que ça. Puis ça, c'est juste les tout débuts de notre galaxie. Alors après, on peut pas dire parce que les chiffres sont beaucoup trop grands pour imaginer. Et puis notre galaxie n'est qu'une parmi de l'ordre de grandeur de 100 ou 200 milliards d'autres. Voilà les dimensions de l'univers. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est vrai que quand on découvre ça, ces dimensions en espace, ces dimensions en temps, puisqu'on estime que c'est entre 13 et 14 milliards d'années, mais au-delà, on ne peut pas remonter, c'est se dire que Dieu a créé ça et qu'il s'intéresse à nous, c'est extrêmement difficile à croire. Et pourtant, c'est bien là le cœur du message biblique, que Dieu est à la fois ce grand Dieu et ce Dieu qui s'intéresse à nous personnellement. Et d'ailleurs, les recherches scientifiques montrent qu'il a fallu, si vous voulez, tout ce temps pour qu'on puisse exister, parce que vous savez qu'on est fait avec du carbone, l'oxygène, les dames qui s'occupent de vérifier leurs calories savent quelles calories sont dans des hydrates de carbone. Hein, qui sont... Voilà, l'hydrogène, il y en a depuis le tout début de l'univers, mais pour qu'il y ait du carbone et de l'oxygène, et puis quelques autres choses comme ça, ben, il a fallu des temps qui se comptent en milliards d'années pour que ça se fabrique dans des étoiles, et qu'elles explosent, puis que ça fasse encore d'autres étoiles. Il faut au moins deux générations d'étoiles pour arriver à faire les matériaux dont on est composé. Voilà. Alors... C'est extraordinaire de voir ce monde ordonné, c'est encore plus extraordinaire quand on fait des recherches scientifiques à ce sujet. Et on a ce Dieu qui est là, qui a créé par sa parole, comme je vous disais, un Dieu relationnel, et puis un Dieu qui se repose à la fin. Alors pourquoi est-ce qu'il nous a mis là, nous si insignifiants? Enfin, à la fin du texte, vous voyez qu'il nous confie un mandat. C'est d'ailleurs un texte qui est assez dangereux, suivant comment on le prend. Parce qu'on a un mandat de domination sur la création. Ça peut être dangereux parce que si on le prend dans le sens qu'on a le droit de tout faire, on a vite fait de détruire la création. Et c'est bien aussi un des enjeux aujourd'hui. De savoir que c'est un mandat qui nous est confié par le Créateur dans quelque chose qui nous est offert, mais pas pour notre satisfaction égoïste, mais pour qu'on le gère correctement. Et je crois qu'il y a là un enjeu très important pour aujourd'hui. Et puis aussi, ce monde qui est créé par Dieu, c'est pas une simple mécanique, hein, c'est pas un truc où Dieu a fabriqué une machine, donné le coup de départ initial, puis après ça fonctionne tout seul. C'est un monde dans lequel Dieu reste présent et Dieu soutient son univers. Mais avec tout ça, il nous reste des questions difficiles. Et j'aimerais quand même qu'on se les pose, même si on ne va pas donner des réponses. Si Dieu est si puissant, comment se fait-il qu'on ait des malheurs, qu'on ait des maladies, qu'il y ait des catastrophes? Quelle image est-ce qu'on se fait de Dieu et de sa toute-puissance? On a eu un chant sur la toute-puissance de Dieu. Hein, et c'est très présent dans nos cantiques, la toute-puissance de Dieu. Puis automatiquement, si on croit au Dieu créateur, on peut se demander, mais alors est-ce que ça signifie que Dieu est responsable des malheurs qui nous arrivent? Est-ce que Dieu est responsable quand il y a des catastrophes telles que celle d'Haïti, qui avait plus de 200 000 morts l'année dernière, puis dont on reparle un peu pas mal ces temps? Qu'est-ce qu'il en est des maladies qui nous touchent? Et on a plusieurs personnes dans notre communauté qui sont touchées assez durement. Qu'est-ce qu'il en est de nos problèmes familiaux qui peuvent nous toucher? Et moi, je pense à un couple que je connais qui est maintenant séparé, et puis il y a quelque temps, le mari qui est encore jeune, il me disait, pourquoi Dieu nous a mis ensemble pour que ça finisse comme ça? Il a utilisé cette expression, Dieu nous a mis ensemble. Alors, est-ce que c'est Dieu qui nous met ensemble? Est-ce que c'est nos choix? Mais il l'avait vécu comme ça. Et le voilà maintenant en pleine révolte parce qu'il s'est fait larguer. Alors, je pense qu'on n'a pas une réponse comme ça, philosophique, définitive, générale à ces questions. Pour moi, la seule réponse qui est dans l'Évangile, bien, c'est celle de ce Dieu qui nous rejoint dans la faiblesse. Il est créateur et nous rejoint dans la faiblesse. C'est aussi tout le message de Noël. Et c'est le message de la croix. Et c'est le message de Jean 1 qu'on avait relu. La parole s'est faite chair. Il nous rejoint dans la faiblesse et il ne nous donne pas une assurance tout risque. Il ne donne pas l'assurance que l'année sera son problème. Il ne nous donne pas des assurances de guérison dans la maladie. Il nous donne des signes. Il y a des personnes qui sont guéries et qui reçoivent ça comme un signe de la grâce de Dieu. Mais il n'y a pas d'assurance que ça va marcher. La seule assurance, c'est l'assurance d'une présence, la présence de Dieu. À mon sens, c'est la seule chose dont on peut être vraiment sûr. Et simplement pour conclure, et pour que ça puisse nous habiter, j'aimerais relire ce texte de Romains 8 qui parle de ça et qui, je crois qu'on l'a déjà, je ne sais plus si dimanche, on l'a déjà lu, mais il est tellement fort que je crois qu'on puisse le relire. C'est Paul qui dit, qui a vécu aussi beaucoup de difficultés, « J'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors que ce soit cette assurance de cette présence de Dieu et de l'amour du Christ qui puisse nous accompagner dans cette année, s'y passera.